Bonjour auditeurs, auditrices, Alexandre, j'espère que tout le monde va bien, car nous repartons pour de nouvelles aventures dans la muse du jour. Chers amis, n'ai-je pas prétendu depuis le début de cette émission, il y a maintenant 2 ans, que la musique est partout? Eh bien, nous allons le prouver encore une fois, aujourd'hui, dans un domaine où l'on ne nous attend pas forcément. Alexandre, tu es intrigué?
Oui, je suis très intrigué.
Et vous, auditeurs, êtes-vous tout autant? Bon, nous allons invoquer tout de suite la muse et nous allons voir tout de suite de quoi il en retourne. Chère muse, bonjour. Alors, pourriez-vous, s'il vous plaît, décliner au sein de notre brigade musicale votre nom et votre activité, s'il vous plaît?
Oui, bonjour, je suis Michel Duhamel, président donc de la société Genodix que j'ai créée avec Pedro Ferrandis, un ingénieur agronome, en 2008 pour développer les activités d'un procédé original, la Genodix, qui a de nombreuses applications en agriculture, notamment vignes, maraîchage, élevage pour le moment, il y en aura d'autres après, avec des séquences de sons qui ressemblent à des musiques, et qui permettent, au niveau un peu fondamental, de réguler la synthèse de protéines au niveau cellulaire. Voilà, bon, on pourra développer, c'est un petit peu rude comme ça, mais oui. Voilà ce que nous faisons. Donc, les journalistes habituellement disent que nous soignons les plantes avec de la musique.
Grâce aux explications de Michel Duhamel, nous avons 2 parties dans notre émission. La première partie qui sera théorique, et à la 14e minute, nous aurons les applications. Donc la partie pratique. Alors, si j'ai bien compris, tout part d'un physicien, Joël Steinheimer. Est-ce que je suis bien dans le vrai?
Absolument, c'est lui qui est à l'origine de recherches fondamentales en physique théorique, ce qu'on appelle aussi la physique quantique, qui, après une 20aine d'années, ont débouché sur des applications en biologie et ensuite en agriculture.
D'accord. Et c'est quoi la théorie qui est à la base de la génodie, donc si je ne me trompe pas.
Alors c'est d'abord un constat réalisé au niveau le plus fondamental, qui est celui sur lequel travaille la physique quantique, c'est les particules élémentaires. Ces tout petits grains de matière qui s'assemblent pour constituer ensuite les quarks qui constituent les atomes, les molécules et tout ce qu'il y a au-dessus, jusqu'au à notre galaxie. Mais au niveau le plus fondamental, vous avez donc des particules qui semblent émerger de nulle part, là, de manière plus ou moins durable, qui émergent de ce qu'on appelle, qui échangent plutôt, qui interagissent avec ce qu'on appelle l'énergie du vide. La plus connue de ces particules, c'est le photon.
D'accord.
Mais on en connaît une centaine d'autres. Le photon étant en théorie éternel, sauf lorsqu'il rencontre un obstacle et qu'il va se disparaître sous forme d'une petite impulsion d'énergie. D'autres ont des noms ésotériques, donc les maisons, les gluons, etc. Enfin bon, il y a différentes familles là-dedans. Et le constat fondamental qu'avaient fait des chercheurs, c'est que d'autres chercheurs avant Steinheimer, les masses de ces particules élémentaires n'ont pas l'air réparties au hasard. Elles sont groupées par paquets sur les échelles de Bass. Et la clé n'apparaissait pas clairement. Mm-hmm. Et Steinheimer, après avoir fait un travail donc assez fondamental sur la mise au point d'une équation, d'une formule de masse, avec un grand chercheur français qui s'appelle Louis de Broglie, a été donc prix Nobel de physique, je crois, en 1929, a poursuivi ses travaux ensuite dans le cadre de sa thèse de doctorat publiée en 1966, et puis d'autres travaux de développement ensuite qui l'ont amené à publier en 1983 aux Annales de l'Académie des sciences un papier expliquant que les masses des particules élémentaires se répartissent sur une gamme de type musical. En fait, plutôt que les masses, il a utilisé une équation qui permet de calculer la fréquence de l'onde quantique associée à chaque masse. Ça aussi, c'est un concept de physique quantique. Et donc, les fréquences se placent bien sur la gamme chromatique tempérée, comme on l'appelle en musique, à savoir donc que ces fréquences ont entre elles des rapports de type musical, c'est-à-dire des rapports simples sur le plan mathématique, des rapports de fractions simples du type de ceux de la tierce, de la quarte ou de la quinte que les musiciens connaissent.
Oui, alors, donc, si je résume, hein, vous me dites si je me trompe. Donc, on fabrique des cellules tous les jours. On fabrique aussi des protéines.
On fabrique des cellules, c'est vrai, il y a une mortalité des cellules et un renouvellement des cellules. Mm-hmm. Mais là, on n'est pas à ce niveau-là.
D'accord.
Le travail, alors, ça c'est l'étape suivante, d'ailleurs, je vous parlais de particules élémentaires. Ensuite, il y a eu un travail en biologie qui s'est amené Saint-Lameur à regarder à l'intérieur de la cellule la manière dont sont fabriquées les protéines. On parle de biosynthèse des protéines,
oui.
C'est
la
synthèse des protéines au niveau cellulaire. Et donc, c'est pas le renouvellement des cellules qui a été regardé là, c'est la manière dont les cellules produisent des protéines. Ces protéines,
oui,
en fait, sont produites à partir de molécules bien connues des biologistes qui s'appellent les acides aminés.
Voilà, tout à fait. C'est ce que j'ai cru comprendre. D'accord, bon, ça va, j'étais pas trop loin.
Il faut savoir que les protéines sont les clés du vivant. Ça comprend les enzymes, ça comprend les hormones, ça comprend différents types différentes sous-classes dans les protéines. Et donc, les acides aminés apparaissent comme étant très importants dans ce domaine-là. Les cellules s'arrangent pour avoir toujours un stock qu'elles assemblent par un processus bien connu. Et alors, Saint-Lameur donc a regardé les acides aminés. Il s'est dit, mais tiens, est-ce qu'il n'y a pas à leur niveau quelque chose, des régularités du même type que celles que j'ai trouvées à une échelle beaucoup plus fine des particules élémentaires. Et en reprenant la même équation qui permet de calculer la fréquence de l'onde quantique associée à une masse, il a regardé la répartition des fréquences associées aux masses des acides aminés.
Oui.
Il a trouvé que elle se classe aussi bien sur une échelle, une gamme plutôt de type tempéré, gamme musicale.
Oui, et d'après ce que j'ai compris, c'était on arrive même au demi-ton du piano bien tempéré. C'est-à-dire...
Oui, absolument. On est effectivement sur des tons et des demi-tons. Tout à fait.
Et voilà. Donc, pour ceux qui connaissent pas bien pour la musique, hein, les demi-tons sur un piano, c'est quand on est sur une touche, et ben c'est la touche suivante, hein, qu'elle soit blanche ou noire, ça fait un demi-ton.
Demi-ton ascendant. Demi-ton descendant.
Les 22 acides aminés se regroupent sur 10 notes. Il y a des acides aminés qui ont les mêmes bases, vraiment après, à jouer après, et qui donc correspondent à la même note. Et donc, en regardant le processus de synthèse des acides aminés, il s'est rendu compte que vous avez donc les acides aminés qui arrivent, concrètement, ils sont amenés par des molécules spécialisées qu'on appelle ARN de transfert, et qui vont se poser sur le ribosome. Et au moment où ils arrivent et où ils se posent, juste avant de s'accrocher au précédent, il y a une phase de stabilisation, comme on dit. Ils étaient, ils bougeaient avec ce qu'on appelle un mouvement brownien, un peu dans tous les sens. Et là, ils s'arrêtent parce que le ribosome est beaucoup plus gros qu'eux. Imaginez un moustique qui se pose sur une table, il va un peu vibrer au moment où il se pose. Et donc, là, c'est un peu ça.
Et donc, à ce moment-là, c'est très court le moment où de stabilisation.
C'est
très
relativement
court.
Non, c'est pas si court que ça.
Non.
Bon, c'est de l'ordre du dixième de seconde, quoi.
D'accord.
Bon, c'est assez court, disons.
Oui.
Mais pendant ce bref instant, l'acide aminé est en situation, en fait, d'émettre une impulsion d'onde. En physique quantique, on dit que sa dimension d'onde dépasse sa dimension de matière. Il faut préciser, je ne l'ai pas dit pour les personnes qui s'intéressent à la physique quantique, dans ce domaine-là, on parle de la dualité onde-matière, à savoir que à toute matière peut être associée une onde. La matière peut s'exprimer dans certaines conditions sous forme purement ondulatoire, alors que nous, à notre échelle, on la voit évidemment formes corpusculaires qui s'assemblent, qu'on peut couper, déplacer, assembler, etc.
Oui, donc en gros, ce sont des ondes que nous, on peut pas entendre, mais que l'on traduit par les ondes sonores que nous connaissons via la musique. Et donc oui, là, alors, c'est audible pour l'homme, en fait.
Ça, c'est intéressant, oui, parce que les ondes, effectivement, données par le calcul, correspondant aux masses des acides aminés, sont dans une fréquence extrêmement élevée, puisqu'on est dans 10 puissance 25 Hertz, hein, vibration par seconde. Donc imaginez 10 avec 25 zéros, bon, c'est tellement élevé qu'on
peut, énorme, oui.
On n'a même pas d'instrument pour reproduire ça. Mais comme ces fréquences, ces impulsions de fréquence sont en rapport harmonique, on a finalement des intervalles musicaux entre les différentes fréquences. Sternheimer a eu envie d'entendre à quoi pouvaient ressembler ces successions d'impulsions de fréquences d'acides aminés. Il s'est dit, j'ai qu'à changer d'octave, c'est tout, diviser un certain nombre de fois par deux pour me ramener en gamme audible. Et ça ne déforme pas la mélodie, la forme du signal. C'est comme un morceau de musique sur un piano, vous le jouez à droite, il est aigu, vous le jouez à gauche, il est grave, vous le jouez en do, en fa, ou en ré, comme vous voulez.
On peut le transposer, oui, d'accord.
De toute façon, vous allez respecter les intervalles entre les notes que vous allez jouer pour reproduire la forme du signal. Et l'élément constant, c'est justement les suites d'intervalles. Et l'expérience a montré que c'est cela que le vivant reconnaît. Même, en fait, les mélodies que compose Sternheimer pour transposer des structures de protéines sous forme de suites de sons, elles sont à 76 octaves plus bas que les fréquences propres des acides aminés. Mais la forme du signal des suites d'impulsions sonores est exactement la même. Et c'est cela l'élément caractéristique et l'élément qui va être perçu par le vivant.
D'accord, donc c'est ce que vous disiez tout à l'heure, pour nous en musique, ça, c'est ce qu'on appelle une transposition. On transpose ce que l'on entend très 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 bas à ce qui correspond à nous, à nos oreilles.
On ne l'entend pas du tout.
Oui, bien sûr.
C'est tellement élevé comme fréquence que c'est évidemment pas audible avec nos oreilles.
Par l'homme, oui, tout à fait.
Nous allons illustrer ces propos par un petit exemple sonore très simple. Alors, je vais tricher un peu, je vais faire une mélodie très connue dans les aigus, et après, je vais la faire une octave en dessous, donc plus grave, qui correspondrait à l'oreille humaine. Donc, je triche un peu, je vous fais la mélodie très connue d'abord. Voilà. Maintenant, je vais la faire dans les graves, mais je vais faire qu'une octave pour qu'on comprenne ce qu'est une transposition, mais cette fois-ci à l'octave, donc les mêmes notes, mais plus graves.
Les suites d'intervalles, c'est les éléments signifiants sont les suites d'intervalles. Et que vous fichiez le do, enfin, ou le la, n'importe où, de toute façon, la mélodie est caractérisée par ces intervalles. Le niveau du do, ou du fa, ou du ré, enfin, de la, pour que vous voulez,
n'a aucune importance. D'accord. Alors, comme nous l'avions précisé au début, maintenant, nous allons voir les applications, donc la partie pratique. Donc vous le transposez par exemple pour l'agriculture, pour des plantes, donc c'est ce que vous disiez en préambule dans votre introduction, et donc comment ça se passe, comment ça marche alors quand des agriculteurs font appel à vos services?
Alors, il faut d'abord qu'on étudie la problématique. Bon, alors, les problématiques qu'on connaît, c'est facile, on se met d'accord sur un budget, on installe le système de diffusion sonore, et puis on règle pour avoir quelques diffusions par jour et avoir les effets recherchés. Mais avant ça, il faut avoir trouvé bien établi les séquences sonores qui vont être
d'accord.
pertinentes.
Donc, la première étape, c'est on identifie le problème, forcément, c'est ça?
Oui, il faut identifier le problème. Est-ce que c'est un problème de métabolisme un peu trop faible, une forme fatiguée, ou qui n'a pas assez de lumière, ou qui a froid, ou qui a trop chaud, ou qui subit un stress d'un type ou d'un autre, ou bien est-ce que c'est un problème lié à la présence d'un pathogène, que ce soit un virus, une bactérie, un champignon. Et et voir comment la planche essaye de s'adapter à ça. Et ça, c'est le travail classique des biochimistes actuels, si vous voulez, qui savent bien que de toute façon que les protéines sont les clés et qui étudient tous les besoins des organismes vivants en cherchant à identifier les protéines qui sont impliquées dans les problématiques. Et ensuite, une fois qu'ils ont repéré les protéines clés, ils vont chercher des molécules qui puissent interagir avec les protéines. Bon, ça marche parfois, mais ça a souvent un inconvénient. D'une part, la difficulté d'amener la bonne molécule au bon endroit, c'est pas toujours
oui.
facile. Et d'autre part, les effets secondaires, puisque quand vous ajoutez des molécules à un organisme, il faut ensuite qu'elles soient éliminées par l'organisme. Il peut y avoir donc des effets partiellement négatifs à côté.
D'accord.
Voire même massivement négatifs dans certains cas. Alors que nous, on part de ces connaissances-là, évidemment, c'est les mêmes à la base, savoir quelles sont les protéines clés, mais ce procédé de régulation sonore nous permet d'interagir directement avec la synthèse de ces protéines clés, soit en stimulation, soit même en inhibition, peut soit augmenter, soit diminuer leur synthèse, uniquement par la diffusion à proximité de l'organisme des séquences sonores correspondant à la structure de ces protéines. Donc, c'est ce qu'on étudie, et puis... on compose donc les suites de ces mélodies. On les appelle ces mélodies de protéines, protéines mélodies, protéodies.
Voilà. Protéodies, oui, c'est ce que j'ai vu. Oui.
Et donc ces protéodies, on va en mettre l'une après l'autre, 3, 5, 7, donc les plus pertinentes par rapport à la problématique. Si on a un problème d'interaction avec un pathogène, on va mettre quelques protéodies pour inhiber la synthèse du pathogène, pour limiter son expression. Et puis, bien sûr, on regarde de l'autre côté quelles sont les défenses naturelles de l'organisme, que ce soit une plante ou un animal, pour renforcer ces défenses naturelles et puis aider l'organisme à reprendre le contrôle du pathogène. Et si on a affaire à un problème de faible luminosité en hiver, par exemple, on va stimuler les protéines associées à la photosynthèse, bon, etc. Enfin, voilà. Donc, on passe toujours par l'identification des protéines clés, et puis on met en place ensuite les divisions qui vont bien.
D'accord. Et donc, ça veut dire aussi, donc, on a... je traduis pour peut-être ceux qui voient pas forcément où on veut en venir. Donc, on identifie le problème. Une fois qu'on a identifié, c'est ce que j'ai vu sur des exemples. Donc, vous aviez une sorte de boîte avec qui marchait par énergie solaire, hein, ma mémoire est bonne.
Oui, c'est un boîtier solaire, mais un capteur solaire et une batterie.
Voilà, une batterie, et vous diffusez, on diffuse des mélodies. Je crois que c'est à raison de 2 à 3 fois par jour, c'est-à-dire soit le matin, soit le soir.
Typiquement, c'est entre 2 et 3 fois par jour. Les séquences qu'on compose en assemblant ces différentes protéodies font entre 5 et 10 minutes et on va les diffuser entre 2 et 3, maximum 4 fois par jour.
Voilà, et donc je rappelle, hein, c'est ce que vous aviez dit, donc protéodie, c'est l'assemblage de protéines et mélodies, en fait, hein, c'est ça, protéodie.
C'est ça, voilà. Protéines, mélodies, protéodie.
Voilà, et apparemment vous avez des résultats qui sont assez incroyables.
Incroyable, non, étonnant, disons.
Oui, oui. Bon, vous savez, comme je suis animateur radio, bon, je suis un peu, je vais un peu loin, mais je vais me contrôler, je vous promets.
Lorsqu'on découvre ça, ça paraît incroyable.
Oui.
Mais bon, en fait, si on sait d'où ça vient et comment ça marche, finalement, ça ne l'est plus. Mais bon, les agriculteurs, eux, on leur demande d'observer, on met toujours en place avec eux des protocoles d'évaluation d'impact, évidemment. L'impact n'est jamais à 100%, hein. En biologie d'ailleurs c'est rarement le cas d'avoir 100% de réussite, mais en moyenne par exemple sur ce qu'on appelle l'ESCA de la vigne, qui est une problématique, il y a des champignons qui se développent à l'intérieur du bois, du cep, on appelle ça les maladies du bois, voilà. Et qui amènent après quelques années les pieds à dépérir d'apoplexie en quelques jours.
En gros, si je dis pas de bêtises, vous me dites, c'est quand la sève ne passe plus, en fait, c'est ça?
Voilà, le champignon se développe à l'intérieur, dans les parties nécrosées, et puis il y a un moment où il coupe les flux de sève. pour s'alimenter. Mais du coup, la sève ne manque plus et le pied dépérit en quelques jours. Ce qui fait bien l'affaire du champignon, puisque à ce moment-là, il peut continuer à se développer, puisque lui, il vit du bois mort qu'il décompose.
Voilà, c'est pas un inconvénient pour le champignon, oui.
Bon, donc, statistiquement, sur cette problématique-là, sur laquelle on avait fait les premiers essais en 2003-2004, on l'applique sur un nombre croissant de parcelles de vignes depuis la création de Genodix en 2008, on a une moyenne de baisse de mortalité annuelle de l'ordre de 2/3, si vous voulez.
Ah oui.
Donc, ce qui est quand même très important.
Ce qui n'est pas rien.
Par rapport à ce que...
Donc c'est pour ça que j'étais très enthousiaste hein, quand je disais.
Oui, oui, mais et c'est pour ça que nos clients sont fidèles et qui continuent à travailler avec nous année après année en nous versant des petites contributions par rapport au travail, au service surtout qu'on leur rend.
D'accord. Ah oui, donc ça c'était un exemple avec l'ESCA, mais ça peut s'adapter pour d'autres problématiques dans l'agriculture. J'ai vu deux trois personnes qui étaient super satisfaites, deux trois agriculteurs qui, bon, il y en a plus hein, bien entendu. Hein, je parle des exemples que j'ai vus. Hein. Mais ça doit pas être évident quand on arrive et qu'on dit grosso modo hein, je caricature et c'est pas comme ça hein, mais quand on dit je vais soigner vos plantes en faisant un peu de musique au départ on vous prend au sérieux?
On prospecte pas systématiquement au hasard.
Je sais bien que vous le faites pas au hasard. Je caricature exprès pour qu'on comprenne.
Bien sûr que ça fait sourire. Mmh. Surtout au début, maintenant encore un petit peu, mais moins vu l'accumulation des résultats. Mmh. Mais au début, on a travaillé d'abord sur des problématiques qui n'avaient pas de solution, hein, puisque l'ESCA, qui est l'application la plus répandue de notre procédé, il y avait un produit qui donnait des bons résultats pour limiter la progression de ce champignon, ce que le brûlait de l'intérieur. On appelait ça l'arsenide ou l'arsenide de soude. C'était à base d'arsenic et il a été constaté quand même au bout de 20 ans que c'était trop toxique. Il y a des viticulteurs qui commençaient à en mourir, il y en a encore qui continuent à avoir des cancers à cause de ça. Et donc c'était interdit en 2001. Et c'est pour ça qu'on a commencé à s'intéresser à la problématique avant même de créer la société. L'équipe de chercheurs qui travaillait là-dessus a mis en place des essais et montré que oui, on pouvait réduire l'impact de champignons avec des séquences assez simples. Et c'est pour ça qu'on a tout de suite commencé à appliquer ça dès qu'on a créé l'entreprise. Mais au début, on a travaillé avec des viticulteurs marginaux, quoi, qui disaient après tout pourquoi pas, quoi. On n'a pas de solution de toute façon, alors on va essayer. Bon, et depuis 2010, on offre une garantie de résultat, c'est-à-dire que on propose et on s'engage par contrat avec nos clients à les rembourser intégralement s'il n'y a pas de résultat significatif.
D'accord.
On est les seuls à faire ça. Et donc, ça aide un petit peu à décider certains éditants. Mais heureusement, il est arrivé historiquement d'en rembourser un ou deux certaines années. Il y a plusieurs années qu'on n'en a pas remboursé. Mais petit à petit, on progresse et puis on a les résultats de meilleur en meilleur. Mais lorsqu'on met en place une nouvelle problématique qu'on ne connaît pas, il arrive que ça ne marche pas. On a les résultats
Oui, puisque à chaque fois, en fait, j'imagine qu'à chaque fois, c'est une problématique différente. On ne peut pas avoir tous les mêmes.
C'est une problématique différente, donc qui ressort de protéines différentes, donc de protéodies différentes, et de contexte, etc. C'est toujours des problématiques multifactorielles, en plus, comme on dit. C'est-à-dire que il y a le facteur du pathogène, mais il y a aussi tout l'environnement, quoi.
Bien sûr.
L'état du sol,
la température, etc.
Les autres produits qui peuvent être utilisés. Enfin bon. L'action qu'on mène n'est pas toujours la seule en mise en place, et donc c'est parfois difficile d'apprécier l'impact de ce qu'on fait. Mais bon, nous on fait attention à avoir des protocoles les plus clairs possibles pour que les résultats puissent être bien.
Donc ça veut dire que parmi les personnes que vous aidez, ça veut dire qu'on abandonne les pesticides de plus en plus
On a commencé à travailler sur des problématiques sans solution, donc il n'y avait pas de pesticides.
D'accord.
Bien sûr, on est sollicité pour voir si on peut réduire ou éliminer les pesticides. Bon, là, donc, il y a des cas différents. On a mis en place, bien sûr, des essais par des problématiques où il y a des produits et où, de toute façon, la réglementation évolue et où les agriculteurs sont un peu mis sous pression pour réduire les quantités de produits qu'ils utilisent. Donc, les essais qu'on a faits sur deux problématiques, à savoir le mildiou sur la vigne, c'est donc des champignons, ouais. Ou la tablure sur les pommiers, c'est une maladie également de type cryptogamique, c'est-à-dire des champignons, qui font des taches grises ou des petits trous sur les pommes, qui les rendent difficilement vendables, même si c'est pas toxique. Dans ces deux cas-là, en combinant bien les stimulations par les protéodies et puis les plantages de produits, on arrive à diminuer par de moitié les quantités de produits sur l'année. C'est-à-dire qu'on va, par sécurité, garder les produits sur les périodes critiques, si vous voulez. Mais les agriculteurs vont faire moins de diffusion, sachant qu'ils ont la stimulation par les protéodies, de toute façon, qui est en place. Et ils vont se contenter d'aller diffuser dans les périodes les plus critiques, où ils savent bien, en fonction des conditions météo, que c'est là que les champignons vont se développer le plus. Et donc, en jouant habilement sur ces deux paramètres, c'est d'abord, ça leur donne une sécurité, parce qu'il y a des jours où il pleut, ils peuvent pas de toute façon aller arroser avec leurs produits, parce que c'est lavé tout de suite par la pluie, alors que les émissions sonores, elles passent quand même. Et puis, ils vont bien sûr traiter dès qu'ils peuvent dans ces périodes critiques. Donc, voilà, c'est le résultat où on en est actuellement sur ces deux problématiques, de diviser, de moitié, et ça tombe bien parce que c'est justement les consignes qui sont données par la réglementation.
D'accord. Alors, mais 50%, c'est énorme, c'est déjà énorme.
Oui, non, c'est déjà un bon résultat. Maintenant, on n'est pas encore capable de le faire sur toutes les problématiques. Et puis, on m'a demandé, et puis, enfin, bien sûr, si on peut supprimer le glyphosate avec ça. Eh ben non, parce qu'on peut pas, on tue rien avec ça, on régule, mais on peut pas tuer des herbes avec des protéodies, donc c'est pas un désherbant. Maintenant, est-ce qu'on a toujours besoin de désherber? Vous avez des gens qui s'agissent très bien avec des herbes, en les laissant pousser, puis en du paillage, en les couchant lorsqu'elles sont à maturité pour recouvrir le sol, et puis au contraire, avoir de la fraîcheur en dessous, et donc bon, enfin voilà, il y a d'autres techniques que le désherbage, quoi. Mais bon, voilà. Donc la problématique du glyphosate est différente et on peut pas strictement réduire ni même supprimer le glyphosate, évidemment, avec nos protéodies. Il faut prendre des problèmes autrement.
Et donc, à chaque fois que vous avez un cas différent, votre société compose une mélodie, enfin une protéodie différente.
Oui, plusieurs en général.
Plusieurs.
C'est ça. Il y a toujours plusieurs paramètres, parce que dans un virus, par exemple, vous avez typiquement entre 8 et 15 protéines. C'est des petites structures biologiques simples. Donc là, sur un virus, on cible 3 protéines clés et on va avoir un effet massif. Ça tombe bien. Sur des problématiques purement virales, sur les plantes, on travaille par exemple depuis 5 ans sur des pêchers, une grande zone de pêchers faits de Perpignan, qui sont affectés par une maladie qu'on appelle la charca. C'est un virus véhiculé par les pucerons. Ce virus met un certain temps à se développer dans les pêchers, mais à partir du moment où il est bien établi, il crée des taches sur les fruits, sur les feuilles, et la réglementation oblige l'agriculteur à couper les arbres et arracher les souches. Bon, évidemment, c'est coûteux en travail, mais surtout en manque à gagner, puisque un pêcher adulte, c'est 300 kilos de pêche par an.
Ah oui, quand même.
Il faut du temps pour le récupérer ça. Et on a donc, dès la deuxième année, la première année, on avait baissé de 30%, la deuxième année, 50%, puis ça se maintient, de réduction du nombre de pêchers arrachés, si vous voulez. Et là, on a un peu de mal à aller au-delà, parce que c'est une problématique où le virus, vous avez des porteurs sains, des pêchers qui ont le virus, mais on ne le voit pas. Bon, alors, pendant ce temps-là, ils vont continuer à produire,
oui,
c'est pas vraiment un problème, sauf que, étant porteurs du virus, il y a des pucerons qui vont s'affecter en piquant pour se nourrir, et puis aller transférer à côté. Donc, la phase de transmission du virus continue, et donc, cette étape-là peut durer plusieurs années, si vous voulez, avant que les symptômes n'apparaissent.
Okay.
Donc, Je ne sais pas si on arrivera à aller au-delà de ces 50%, mais
ce qui est déjà considérable,
c'est déjà un gain important en termes économiques, bien sûr.
Oui. Ah, je voulais vous poser une question. Alors, c'est pas du tout une question piège. Il y a une question qui me vient comme ça, mais puisque vous parliez pour les ondes du piano bien tempéré, mais que se passerait-il dans d'autres cultures, c'est-à-dire si on va par exemple au Maghreb où c'est pas forcément le type de musique écoutée, enfin avec un piano bien tempéré, puisqu'ils ont par exemple des quarts de ton, ou en Inde, est-ce que ça pourrait s'adapter à une culture différente? Je sais pas, je vois ça comme...
Alors, en fait, ce sont des suites de fréquences. Qu'on ait joué avec un instrument ou avec un autre, ils vont quand même avoir des gammes musicales basées sur des accords. Même si, dans leur musique, à eux, ils ont l'habitude de travailler sur des quarts de ton, les accords...
oui, ça peut être, ce sont les mêmes accords
quand même, je veux dire.
D'accord.
La plante, elle... qu'on soit en gamme tempérée ou qu'on se place sur une autre gamme, ça lui fait ni chaud ni froid. Donc c'est pas. Il se trouve que ça se place bien sur une gamme tempérée, mais bon, ça s'intègre aussi.
Oui, on le trouve dans les d'autres
instruments. Ça s'intègre aussi sur d'autres instruments.
D'accord. Mais comme vous, on s'occupe aussi de l'agriculture, mais est-ce que ça va jusqu'à s'occuper aussi, par exemple, des animaux? Puisque si j'ai bien compris, c'est l'ADN. Donc l'ADN, on le trouve pas seulement dans les plantes, on le trouve partout.
L'animal, l'homme, qui est un animal qui a un niveau biologique un peu comme les autres,
oui.
Et la plante fonctionne pareil. 99,9% du vivant fonctionne avec des cellules à noyaux qui donc ont un génome et qui va produire des protéines. Il n'y a pas de différence fondamentale à ce niveau-là. Il y a des différences dans les structures des génomes. D'ailleurs, l'homme n'est pas celui qui a le génome le plus compliqué. Vous avez des grains de vie qui ont des génomes beaucoup plus compliqués. Mais même le génome de la vie est plus compliqué que le génome humain. Mm-hmm. À ce niveau-là, les réactions sont les mêmes. Et les premiers constats d'effet, d'ailleurs, de protéodies sur des systèmes biologiques ont été faits sur des humains l'humain a la capacité d'associer la conscience qu'il est en train d'écouter quelque chose à un ressenti physique et la mesure de paramètres biologiques c'est ce qui a permis au départ Sternheimer quand il a transposer ces suites de fréquences musicales associées à des acides aminés donc en protéodie entre guillemets il faisait ça pour voir quoi, comme un chercheur qui cherche quoi.
Oui.
Et sans idée que ça allait servir à quelque chose mais c'est le jour où il a ressenti un peu quelque chose et surtout il a constaté des effets sur d'autres personnes sur des protéodies très, très particulières et qu'il s'est dit oula mais il se passe quelque chose là, il faut creuser ça. Il en a parlé à un académicien avec qui suivait ses travaux, là, André Lichnerowicz, médaille Fields sur les mathématiques, qui lui a dit, mais attendez, c'est très important, la musique, c'est fondamental, creuser le sujet, ça vaut le coup, c'est vraiment un acte très intéressant. Bon, ça remonte aux années 80,
d'accord.
Quelques années. Mais les premiers essais ont pu être faits sur des humains, ensuite sur quelques animaux, notamment la fameuse lactation des vaches. On savait que certaines musiques étaient bonnes, même pour les vaches. Les vaches, d'ailleurs, elles montrent bien dans certaines musiques que j'aime bien, je mets à danser un petit peu. L'oreille mélomane, oui. Et Stern Hammer a pu montrer que, il y a longtemps déjà, et on l'a refait depuis, que si vous passez. D'abord que la protéine de lactation, qui s'appelle la prolactine, qui est un peu analogue, si bien chez la femme, chez la vache, ou tous les mammifères, il y a des petites variations, mais enfin, elles se ressemblent. Si vous passez cette mélodie à des vaches, à des tantes, vous augmentez un petit peu les secrétions de lait, d'une part, mais vous avez aussi un lait un peu plus riche, avec un peu plus de protéines, un peu moins de petits laits. Globalement, et puis les vaches aiment bien entendre ça. Donc, faut pas le faire trop parce que sinon vous allez avoir des perturbations, comme toujours. Une simulation, il y a toujours des limites.
Oui, ça, il faut que ça soit contrôlé, oui.
Voilà, il faut que ça soit contrôlé, mais ça...
Ah oui, c'est carrément... Entreprises.
Bon, et le fait de faire des essais sur les plantes, c'est venu après, au début des années 90, les premiers constats avaient été faits en 85, 86, par là. Les critiques les plus courantes, c'était de dire, ouais, mais votre truc, c'est psychologique, on sait bien que la musique, ça a des effets, mais enfin bon, il n'y a pas d'effet biologique direct.
Oui, il ne faut pas pousser.
Je vais déjà poser un peu la question. Mais alors que, bon, c'est Pedro Ferrandis, mon associé dans Genesis, qui était étudiant à l'époque, il s'est dit, bah, tiens, on va essayer sur des plantes. Et c'est lui qui a fait les premiers essais sur des plantes tomates pour voir l'impact sur la croissance du pied, l'impact sur la floraison, l'impact sur la taille des fruits, etc., la résistance à la sécheresse, différentes choses qui ont été faites au début des années 90. Oui, il a montré clairement que bah, ça produisait des résultats. Et à ce moment-là, donc, ça a permis de même de désamorcer cette critique du côté intellectuel des effets de la musique.
D'accord. Et comme vous avez parlé des effets sur l'homme, est-ce que ça continue? Est-ce qu'on on poursuit les études, la recherche à ce niveau-là? Et qu'est-ce qu'on essaye de... je vais pas dire guérir, ça serait trop fort, mais qu'est-ce qu'on essaye de garder comme chose positive pour l'homme?
Bien sûr. Disons que c'est la même chose que pour les plantes, sauf que l'exercice médical, entre guillemets, est beaucoup plus contrôlé que l'exercice que les soins aux plantes. Je veux dire, Sternheimer notamment, mais d'autres avec lui, passe beaucoup de temps à regarder des problématiques de santé humaine et à composer des protéines pertinentes. Sauf que aujourd'hui, on n'a pas les moyens de petites entreprises de mettre en place ce qu'on appelle les essais cliniques sur des cohortes de patients pour pouvoir valider mais de manière vraiment scientifique les effets comme on le fait avec des molécules médicamenteuses parce que c'est des essais qui vont coûter des centaines de milliers d'euros voire des millions.
Bon, d'accord.
Aujourd'hui on n'a pas encore réussi à mettre ça en place mais bon on a bien l'intention de faire un de ces jours. On a la base en termes de nombre de protéines, on en a beaucoup pour qui permettrait de faire ça. On a des tas de petits cas comme ça qu'on a des choses qu'on teste sur les amis, bon, mais qui montrent des améliorations, parfois impressionnantes, mais c'est toujours des cas particuliers. Et pour passer du cas particulier, un peu la preuve de concept, à une méthode médicale reconnue,
il y a quand même quelques années de
passer. On n'a pas vu faire. Alors que dans le végétal, finalement, le fait d'avoir cette problématique de la vigne très répandue, puisqu'il y a quand même 80 000 vignerons en France qui ont tous les mêmes problématiques. Alors les cépages ne sont pas tous aussi affectés les uns que les autres, mais enfin quand même, il y en a beaucoup. Et donc, ça nous a permis, là, en répétant sur un nombre croissant de parcelles, on a plus de 100 parcelles, même dans pas loin de 300 maintenant, équipées de ces appareils de diffusion, avec donc des résultats, des comptages chaque année pour voir les niveaux de mortalité. Et ça nous a permis d'établir des statistiques qui ont maintenant une grande validité par le nombre des résultats, si vous voulez. Bon, alors que sur d'autres problématiques, vous avez juste 2-3 résultats par-ci, par-là. Et
oui, vous ne pouvez pas en conclure une...
Ça ne suffit pas à prouver que c'est valable.
Okay. Donc... Et est-ce qu'on peut écouter un exemple de protéodie?
Alors, les protéodies ont toutes, par définition, des effets biologiques potentiels. Je dis potentiel, c'est-à-dire que, évidemment, l'écoute, le fait d'entendre les protéodies ne va produire des effets que si la protéine est en phase d'expression, comme on dit, c'est-à-dire s'il y a des cellules dans l'organisme qui la produisent. Et à ce moment-là, on va augmenter ou diminuer suivant la façon dont on construit
la protéodie. Donc une protéodie est adaptée à la cible en fait qu'on cherche.
Chaque protéine a sa musique à elle.
Voilà.
Bon, c'est étonnant, c'est une sorte de composition étonnante. Sternheimer s'étonne souvent que les compositeurs aient repéré ça, même si il s'amuse lui aussi avec d'autres amis à trouver dans les compositions humaines des des suites de notes qui correspondent exactement à la structure d'une protéine. Et d'ailleurs, on a une centaine d'exemples au moins de plats.
D'accord.
Mais bon, donc, on va... Oui, donc, l'effet dépend, on dit, de la reconnaissance par le sujet. C'est-à-dire qu'il faut que l'organisme... il trouve son intérêt, quoi, qui disent ah tiens oui c'est bon ce truc-là ça me plaît et je ressens et physiquement pour l'humain ça se traduit par une sensation d'agrément, ah ouais c'est super cette musique, ça. J'ai l'impression que ça me fait du bien et c'est pas qu'une impression, c'est qu'il y a une interaction biologique, mais dans d'autres cas une musique vous agace, bon, moi je conseille, enfin on conseille en général de pas écouter les musiques qui vous agacent parce que ça veut dire que ça
n'a pas de bons effets pour vous, d'accord,
ça n'a pas de bons effets pour vous, c'est faut pas se...
Faut pas se torturer.
Voilà. Bon. Et donc, alors, avec ces protéodies, lorsqu'on les fait écouter à une personne comme ça en direct, il n'y a pas de problème. Si elle sent mal, on arrête. Et puis, éventuellement, comme on a souvent la musique dans l'autre sens, retournant les signaux, en fait, on a l'effet inverse.
Oui.
Bon, on sait faire la musique en inhibition. Si une personne se sent vraiment pas bien, une écoute, on lui passe dans l'autre sens et puis ça. Calme.
D'accord.
Bon, mais à la radio, quand vous avez 100 000, 200 000, 3 millions d'auditeurs, vous ne pouvez pas savoir.
Oui, des gens. Nous, on est un petit peu plus modestes. Hein. 100 000, si on arrive à 1 million, écoutez, je me le souhaite.
Peu importe, hein. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas tout de suite téléphoner en disant « Attendez, votre musique, elle ne me plaît pas. »
Oui, bon, enfin.
Par principe, nous, on ne diffuse jamais de protéodies à la radio ou à la télé.
Ah, d'accord.
Et en fait, on a composé des séquences, qu'on peut appeler placebo, si vous voulez, qui sont constituées avec les mêmes notes. La première qu'on a composée, on a pris un chant d'oiseau. Il y a des ressemblances entre certains chants d'oiseaux et des protéodies. Et on a même, les chercheurs ont montré qu'il y a des oiseaux au printemps, enfin, certains oiseaux vont stimuler la floraison des plantes qui vont produire les graines, qui vont les nourrir après.
Ah oui.
C'est très étonnant. Mmh. Oui, carrément, les oiseaux ne chantent pas que pour eux, ils chantent aussi pour les fleurs. Bon. Mais bon, il y a aussi, bien sûr, tous les mécanismes, tous les chants amoureux, etc., ou pour contrôler son territoire. Enfin, bon, il y a différentes fonctionnalités des chants d'oiseaux. Mais il y en a une, notamment, de stimulation de floraison de plantes à fleurs. Et c'est pas par hasard, d'ailleurs, que dans l'évolution, ils sont apparus en même temps, évidemment. Les oiseaux et les plantes à fleurs.
Bon, ok.
Mais, donc, on a composé plusieurs protéodies comme ça, avec les mêmes notes, avec le même code qu'on appelle le code génétique, là c'est les notes transposées de fréquences d'acides aminés, mais dans des ordres qu'on a mis un peu au hasard, comme ça, bon, sans lien direct avec une protéine. Et donc ça, a priori, on a comparé par rapport au génome humain, bon, il n'y a pas de correspondance, donc...
A priori, il n'y a pas de soucis particuliers.
Il n'y a pas de souci particulier. Et ça montre bien à quoi ça ressemble. Mais ça ne peut pas, évidemment, illustrer la diversité, puisque je vous dis, bon, il y a des familles de protéines qui ont des musiques qui vont se ressembler, mais vous avez quand même une très, très, très grande diversité entre, vu le nombre des protéines.
Oui.
Le corps humain sait fabriquer environ 30 000 protéines différentes. Il y a même plus que ça, parce qu'il y a tous les micro-organismes que nous hébergeons, qui sont plus nombreux que nos propres cellules et qui ont leur propre génome, qui font d'autres protéines. Donc, mais ça, on les connaît pas toutes. Mais bon, on estime que dans le vivant, dans toutes les formes du vivant, il y a des milliards de protéines différentes. Bon, imaginez un petit peu la symphonie. Bon,
mais
évidemment, personne n'est capable de maîtriser ça. Mais donc voilà, à notre petite échelle, on maîtrise que nous, on a quand même environ 3000 protéodies, ce qui est quand même une base importante. Mais
bon, on va essayer d'en écouter une pour voir ce que ça peut donner. Donc je
oui,
mets
oui,
le premier. Voilà. Ce qu'on vient d'entendre. Et est-ce que le timbre de l'instrument est important aussi ?
Alors, il y a dans une musique, comme vous le savez aussi bien que moi, il y a différents paramètres. Il y a les notes qui sont des hauteurs des sons.
Oui.
Mais vous avez aussi le tempo. Là,
oui.
Sur celle-ci, vous voyez qu'on a un tempo de l'ordre de 2 par seconde, avec des petites variations, bien sûr, avec le phrasé. Hein, vous avez,
oui.
En plus du tempo, dans une musique, vous avez toujours un phrasé qui sont la formation des phrases. Donc, des variations de tempo, quoi. Pour faire apparaître les ralentissements et les accélérations, bon, qui vont permettre une expression plus forte de la suite de notes.
Donc le phrasé est aussi important que les intervalles, pour le coup.
Alors oui, mais sauf que les intervalles, nous, on les détermine par le calcul, parce qu'il y a des masses des acides aminés. Nous n'avons pas aujourd'hui de règles mathématiques pour la partie à la fois du tempo et des intervalles.
Oui.
Du phrasé, je veux dire.
Oui, j'avais compris.
Phrasé. Et ça, on le fait, je dirais, à l'oreille et à l'instinct. Aujourd'hui, c'est l'interprète, en fait, celui qui va regarder la série de notes. Il voit, bien sûr, les répétitions de notes, donc ça lui donne déjà une idée des phrases qui peuvent exister. Et puis ensuite, on va le jouer. Alors, c'est compliqué à jouer parce que les suites de notes sont quand même parfois un peu improbables. Et donc, on a un outil qu'on appelle One Key Play, qui permet donc un petit logiciel, qui permet de rentrer d'abord les notes, la séquence de notes, et ensuite de les faire défiler avec une seule touche. Et donc, à ce moment-là, vous n'avez pas à vous préoccuper des notes que vous pouvez voir devant vous, mais vous avez surtout la possibilité de maîtriser le tempo sans avoir en même temps jouer la bonne note.
Donc c'est le logiciel qui génère la mélodie ou pas?
Voilà, le logiciel génère la suite de notes, mais la mélodie, mais le phrasé est fait par ce qu'on appelle le décodeur, celui qui va décoder, comprendre le message, vraiment avec justement ce phrasé qui donne l'expression de cette musique. Le choix du tempo, lui aussi, il est un peu au ressenti, très curieusement, le tempo qui va bien, c'est celui qui correspond au rythme naturel de synthèse de la protéine. La plupart, bon, celui-là c'était
un rythme de synthèse de la protéine, alors là ça j'y m'attendais pas.
Alors oui, il se trouve qu'au niveau biologique, si vous voulez, ces fameux accrochages successifs d'acides aminés pour fabriquer la chaîne de molécules qu'on appelle une protéine, se fait assez lentement. Le rythme le plus courant, le plus grand nombre de protéines humaines en tout cas, se synthétise à environ entre 4 et 5 par seconde. Et ça c'est très intéressant parce que c'est le battement de base de la plupart des musiques. Ça vous fait c'est le rythme que vous retrouvez dans la plupart des musiques. C'est parfois un rythme secondaire, mais c'est le rythme le plus répandu. Et c'est pas par hasard, évidemment, c'est parce qu'on vibre bien avec ça, et c'est parce que la majorité de nos protéines se synthétisent à ce rythme-là. Donc Sernheimer aussi s'amuse du fait que les compositeurs n'aient pas compris ça. C'est pas un rythme intellectuel, c'est un rythme biologique. C'est pour ça que ça tout le monde.
Donc un rythme naturel, en fait.
Un rythme naturel. Alors vous avez d'autres protéines qui vont synthétiser plus vite, 8 par seconde, etc. Bon, ça devient un peu plus dur à maîtriser. Bon, mais en fait, au niveau du tempo, on est en prise directe sur le phénomène biologique. Par contre, le phrasé, lui, c'est effectivement un élément supplémentaire pour identifier la mélodie. Mais le simple défilement à tempo constant de la suite de notes produit des effets biologiques, ça a été montré.
Waouh. Est-ce qu'on peut entendre un autre exemple?
Oui, mais je n'ai pas répondu à la question sur le timbre.
Oui.
Le timbre aussi est signifiant, bien sûr, c'est ce qui donne la couleur de l'instrument, comme on dit.
Oui.
C'est une couleur sonore, mais on n'a pas non plus de règles mathématiques. Sternheimer considère que c'est un peu l'intégration de toutes les notes qui vont être présentes dans la protéodie et qui déterminent les proportions des différentes harmoniques et le choix du timbre. En pratique, il fait ça aussi un peu à l'instinct. Il dit, tiens, ça, je verrais mieux en xylophone, en violon, en piano, ou en trompette. Mais on a, là aussi, on n'a pas de règles mathématiques pour le moment.
D'accord. Ok. Entendu. On va entendre un deuxième petit exemple pour voir ce que c'est.
D'accord.
Pour Théodie. Entend un autre timbre et
vous avez sans doute remarqué que dans celle-ci vous avez des notes très allongées et ça correspond, c'est pas uniquement l'effet d'interprétation, c'est aussi la traduction du fait que vous allez avoir plusieurs notes identiques à la suite, et ça on peut le faire de deux façons différentes, soit effectivement en répétant la note avec le tempo, soit en allongeant la note, suivant les cas on fait l'un ou l'autre. Ça aussi, okay. C'est l'interprète qui va choisir une forme d'expression ou l'autre, mais les allongements correspondent généralement donc à une suite de notes identiques.
D'accord. J'apprends plein de choses. Est-ce qu'on peut entendre le troisième petit exemple? Là, le tempo est un petit peu plus rapide pour moi.
Mmh.
Voilà. Pas exactement le même timbre, etc. D'accord. Et donc, j'ai bien compris que c'est protéine et mélodie. Et en musique, on ne l'harmonise pas parce qu'on pourrait casser l'effet mélodique. C'est pour ça que, par exemple, on n'est pas d'accord avec, on ne l'accompagne pas.
Pas du tout. On le rendrait moins efficace. Mais par ailleurs, ça peut être une solution. On travaille, par exemple, avec une société depuis au moins 5 ans. On a une collaboration avec une société spécialisée dans vraiment la musicothérapie qu'ils appliquent, eux, avec un certain nombre de cliniques déjà, pour la réduction de la douleur par des musiques en jouant principalement, eux, sur le rythme, le tempo. Ils font des compositions assez relaxantes, d'une part, et puis la technique, c'est ça, la courbe en U, c'est de ralentir progressivement le rythme de cette musique pour provoquer un peu un effet d'assouplissement, un peu de lâcher prise, et ce qui a beaucoup d'avantages au niveau de la relaxation, quoi. La personne est moins sensible à ce moment-là à ce qui la perturbe, et à la douleur en particulier. Et puis ensuite, après une phase de repos, il remonte le rythme pour relever le niveau de vigilance de la personne.
D'accord.
Et ils ont fait des essais en faisant justement une composition à base d'une de nos protéodies, l'endorphine, qui est la protéine et la morphine naturelle, si vous voulez, qu'on secrète à chaque fois qu'on se blesse ou qu'on fait des exercices intenses, etc., qui est très agréable, d'ailleurs, au point de vue des effets ressentis, mais qui fait aussi qu'on ressent pas, dans certains cas, on ressent pas du tout la douleur lorsqu'on se blesse, en tout cas pas tout de suite, la production immédiate de cette endorphine. Et ils l'ont un peu délayé, si vous voulez, sous forme d'une composition musicale. Et ça marche, ils ont constaté de meilleurs effets sur la réduction de la douleur avec cette composition musicale déléguée. Ils ne pourraient pas faire écouter l'endorphine pendant trois quarts d'heure à une personne. La personne, au bout de 10 minutes, dira: attendez, j'en ai assez de votre truc là. C'est trop concentré. Alors que délayé, c'est comme une musique humaine. Dans une musique humaine, lorsqu'on trouve des petites séquences de type correspondant à un bout de structure de protéines, dans une musique humaine, c'est délayé d'une certaine façon, c'est-à-dire que vous avez un thème qui est décliné, repris, modulé, qui fait un peu l'originalité de la pièce musicale, mais qui la rend supportable. Alors qu'une protéodie, vous pouvez pas l'écouter pendant 10 minutes d'affilée. Et sur les plans, on a essayé, au bout de 20 minutes, vous avez des nécroses, vous avez des perturbations du métabolisme.
Oui,
on ne passe jamais les 10 minutes, et encore avec plusieurs protéines.
Oui, c'est pour ça que vous ne passez pas toute la journée. Si vous avez un moment.
On passe pas toute la journée. Il vaut mieux plusieurs diffusions courtes que des longues diffusions pour laisser l'organisme digérer, entre guillemets. Enfin,
et puis laisser les effets agir, donc j'imagine.
Voilà.
Aussi.
Laisser agir, oui.
Ok. D'accord. Et en tout cas, merci, parce que moi, je sais pas pour toi, Alexandre, je sais pas pour vous, auditeurs, moi, j'ai appris plein de choses, et vraiment, pouvoir au moins même diminuer les pesticides grâce à votre système, je dis super.
Et même sans avoir de protéines sous la main, je peux vous dire que à chaque fois que vous avez des musiques qui vous plaisent, n'hésitez pas à les écouter. Et puis quand vous sentez que vous en avez marre, bah, arrêtez. Et j'ai un ami là qui avait, il y a seulement 8 ans, mais il avait un gliome, qui a une début de tumeur cérébrale, il était bien embêté. Et le médecin lui disait qu'il ne pouvait pas l'opérer, c'était pas très loin de l'œil. Il disait que c'était un endroit où on ne peut pas opérer. Et c'était un grand fan de musique classique. Il s'est complètement immergé par instinct. Il a eu envie d'écouter de la musique de manière beaucoup plus intense que d'habitude. Et il a fait ça pendant tout un été. Et à la fin de l'été, il est retourné voir son médecin. Il lui dit, mais attendez, vous avez fait quoi, votre tumeur, je ne la vois plus. Il est guéri, sa tumeur avait disparu. Il ne sait pas comment, il n'a pas su me dire exactement quelle musique il avait écouté, il y en avait trop. Mais à l'instinct, il s'est saoulé de grande musique qui lui plaisait. Et ben ça, quelque part, il y a des correspondances avec ce qu'on fait, mais je ne sais pas lesquelles, puisqu'il n'a pas pu me dire spécifiquement. D'accord. Les séquences qu'il avait le plus marqué. En tout cas, il s'est débarrassé de son guillaume. Donc, voilà.
Et en plus, les musiques qu'il a écoutées, lui, peuvent ne pas fonctionner sur une autre personne.
Là, j'en sais rien.
Oui, non, mais je veux dire, c'est dans l'hypothèse, pas forcément.
Voilà. Hein. Il y a différents types de tumeurs cérébrales. En tout cas, dans son cas, ça a été vraiment étonnant. Il était
oui,
bien content.
Oui, c'est étonnant.
En tout cas, voilà, à l'instinct, il a eu raison. À l'instinct d'écouter les musiques qu'on aime et de faire attention au ressenti qu'on en a. Surtout, c'est pas seulement le plaisir intellectuel, c'est vraiment.
C'est corporel.
Oui, ça. Ça me parle vraiment, quoi.
Oui.
Ça vous restructure de l'intérieur.
D'accord. Bon, de toute façon, on peut conseiller, et c'est surtout dans notre émission, nous, on conseille d'écouter de la musique, mais vraiment, il est prouvé que ça fait du bien, faut pas s'arrêter. Hein.
Voilà, biologiquement, ça peut faire du bien.
Juste pour le clin d'œil, est-ce qu'on pourrait écouter puisque Monsieur Steinheimer a eu une petite période musicale dans les années 60, 68.
Oui, ça a commencé en 67. Il était à Princeton, donc l'université américaine, et il s'est retrouvé un peu en disponibilité parce que il avait été envoyé là-bas par Louis de Broglie. Auprès de grand chercheur français, une équipe de recherche en physique théorique. Et puis, le temps qu'il arrive, 15 jours après, son poste avait été supprimé par cause de réallocation de budget, dans le cadre de la guerre du Vietnam à l'époque. Et donc, il était resté pendant quelques semaines désœuvré, là, en suivant quelques cours, mais enfin, il n'avait pas le travail de base qu'il devait avoir. Et donc, il gratouillait de la guitare sur le campus, il avait quand même déjà une guitare, il chantait un peu. Et puis un professeur français lui a dit, mais tiens, toi qui joues de la guitare, pourquoi est-ce que tu ferais pas comme Antoine, qui avait démarré une carrière de chanteur un an avant.
Oui, celui qui avait les cheveux longs.
Il a pris au mot, puis au mois suivant, il est rentré en France dans sa famille, puis il connaissait un producteur à qui il a proposé quelques chansons, et le gars dit, oui, c'est pas mal ça. Et puis il a décollé assez vite, avec un 45 tours qui a bien marché. Sur le principal titre, c'était quel est donc l'animal qui inventa le calcul intégral.
Ah bon, attendez, je vous arrête tout de suite. Est-ce qu'on peut avoir un bout?
Do you know the beast?
Qui inventa?
Who discovered?
Le calcul intégral.
Integral calculus. Oui, dis-moi, connais-tu l'animal qui inventa le calcul intégral? Est-ce Leibniz ou bien Newton, ou bien est-ce que c'est moi qui déconne? Voudrais-tu, mon amour, intégrer des équations nuit et jour? Sais-tu que quand on fait des épures, tout ce qu'on attrape c'est les courbatures? Moi j'en ai eu quand j'étais tout gamin, en trayant des vaches pour la Saint-Valentin. Il y en avait une qui avait une bonne tête. Elle était mignonne, on l'appelait Chipette.
Oh, tell me!
Dis-moi!
Do you know that beast?
Connais-tu?
En même temps, je trouve ça super drôle. C'est génial. D'accord, et donc ça correspondait à cette période-là. Donc...
Voilà, c'était le début de cette période de chanteur. Mmh. Bon, il a continué, il a retourné à Princeton, il a continué quand même à travailler un peu là-bas, mais ça lui a plu. Et donc, il a ensuite, pendant 4 ou 5 ans après, eu une carrière de chanteur quand même. Et à l'époque, il y avait moins de chanteurs qu'aujourd'hui, et ça lui a permis de gagner pas mal de sous quand même, qui lui ont permis de s'établir comme chercheur indépendant avec ses droits d'auteur. Ce qui a très bien cartonné aussi, c'était l'année suivante, en 68, il y a deux chants qui ont bien marché. L'un, c'était La Révolution, et oui. L'autre, c'était dans le cadre d'une pièce de théâtre qui avait été montée.
Attendez, dans la muse du jour, on est au taquet. Écoutez, on va écouter un bout de La Révolution.
Ah ben voilà.
Le père le grandit à son petit gars, mais enfin bon sang, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire dans la rue, fiston?
Je vais aller faire la révolution.
Mais ça fait si bon sang, je te donne pour le temps pas assez d'argent.
Contre la société de consommation, je peux aller faire la révolution.
C'est pourtant pas des fariboles.
On nous apprend des insanités et on nous empêche de contester.
Oh, si tu travailles comme ça, j'ai peur que tu passes pas dans la classe supérieure.
Les différences de classe, on les supprimera. C'est pour ça qu'on fait la révolution.
Ah oui, et donc, moi j'étais tombé sur Renaud qui parlait justement de cette période. Et qui disait que justement, oui, il connaissait bien Évariste et qu'il avait, puisqu'il n'y avait personne qui pouvait faire de la dactylo. Et donc, c'est lui qui avait commencé à écrire les textes. Et c'est comme ça qu'il connaissait le physicien, Évariste, alias Steinheimer.
Oui, oui. Tout à fait. Bien sûr, il se connaissait. Bon, à l'époque, il y avait moins de chanteurs qu'aujourd'hui. Et puis, bon, il se connaissait, effectivement. C'est l'époque aussi où Renaud a démarré. Tout à fait.
Oui, démarrer avec lui. Bon, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de venir à mon émission. Vous avez accepté très gentiment de parler avec nous. Enfin, moi, je suis plutôt musicien, donc je n'y connais rien en physique. Et c'était un moment très agréable pour moi de comprendre en tout cas ce que vous faites, d'essayer de comprendre en tout cas. Encore merci pour votre disponibilité, pour nous avoir expliqué tout ceci.
Voilà, mais c'est un nouveau domaine qu'on peut considérer comme scientifique, mais qui est à l'interface entre la physique quantique, la biologie, la musique, plus encore d'autres dimensions les dimensions de sujet, l'interaction entre la personne, l'être, l'organisme et puis ses cellules, etc. La possibilité même de reconnaître ce qui résonne bien en soi par les
musicaux.
Donc voilà, il y a d'énormes développements possibles. Bon, ça fait 30 ans qu'on y travaille. Et
il reste encore plein d'années pour que ça se développe encore.
Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire.
Ouais, comme disait un astronome, c'est ce qui est génial, c'est ce que je vois, mais ce qui est de plus génial encore, c'est ce que je ne connais pas encore.
Absolument, il y a encore tellement à découvrir.
Oui, en tout cas, c'est vraiment passionnant. Ben, merci encore, j'espère que je pourrai suivre un petit, on peut suivre un petit peu l'évolution de vos travaux.
Merci pour votre écoute, et on a la chance que ce qu'on fait soit suffisamment étonnant pour intéresser beaucoup de journalistes. Et donc, si vous regardez sur Internet, vous verrez de nombreux reportages, presse, radio, télé, où nos clients témoignent de ce constat.
Oui, j'en ai regardé, j'invite effectivement les auditeurs à regarder, à écouter, effectivement, à lire la presse, à regarder. J'ai vu des reportages sur France 3. aussi.
Oui, France 2,
France 2, France 3.
Depuis 10 ans, toutes les chaînes ont fait des accords. Mais les plus récents, effectivement, c'est France 2 et France 3.
Voilà. Que tout le monde n'hésite pas à regarder. Hein, c'est public, hein, y a aucun problème. Mm-hmm. Et vous verrez, qu'on tombe sur quelque chose de passionnant qui mérite d'être cité quand même, je trouve. En tout cas, à très bientôt et merci encore d'avoir participé à notre émission.
Merci à vous pour votre écoute et à vos auditeurs.
Merci. Au revoir.
Au revoir.